m'en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Mickaël Goncalves,
Baptiste Antoine.
Bonjour, bonsoir. Révélé en décembre 2018 par l'émission La France a un incroyable talent sur M6, ce Breton de Saint-Brieuc est devenu disque d'or en seulement 2 semaines. Il est même devenu l'homme qui vend le plus de disques aujourd'hui dans l'Hexagone. Était-il écrit que cet apprenti menuisier allait devenir une star du rock? Bien malin qui le dira. Ce qui est sûr, c'est que quand on entend sa voix, on est saisi par la ressemblance avec son idole de toujours, Johnny Hallyday. Même tessiture, même articulation, même vibrato, même expression dans la voix et, ce qui est très fort, des émotions similaires ou presque dans les oreilles des auditeurs. Jean-Baptiste Guégan est avec nous. Son premier album, puisque c'est écrit, est toujours disponible chez Sony Music et vous m'en direz des nouvelles.
Que serais-je devenu sans qu'en serait-il de moi aujourd'hui? Je ne serai qu'un inconnu perdu, toujours du mauvais côté de la rue. Je n'étais le plus grand.
Bonjour Jean-Baptiste Guégan.
Bonjour.
Merci. C'est la quatrième piste de cet album. C'est un hommage du fan à son idole.
C'est exactement ça, oui. C'est un hommage. C'est un désir de lui rendre hommage à Johnny Hallyday. C'était vraiment important pour moi et pour mon équipe qui me suit.
Comment est-ce que vous l'avez découvert, Johnny, la première fois que vous l'avez entendu, que sa voix vous a marqué?
Ben Johnny, moi j'étais dans ma plus tendre enfance. Ça a été comme ça que ça s'est passé. Après, je l'ai vu sur scène la première fois, c'était à Bercy en 92. Et c'est vrai que ça m'a je suis resté de froid, quoi, de glace, de saisie devant ce charisme et cette bête de scène que c'était.
Vous aviez 9 ans à l'époque, hein, c'est ça?
Oui, voilà, 9 ans. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible. Comment est-ce qu'un homme tout seul peut faire ça?
Ah d'accord, donc c'est le showman qui vous a d'abord impressionné, ou la voix?
Bien sûr, enfin les deux, enfin, c'est un tout, voilà. Je pense que même par rapport à la carrière qu'il a eue.
Mais à quoi ça ressemble un concert de Johnny Hallyday alors, dans le regard du petit garçon que vous étiez à l'époque?
Ça ressemble un petit peu comme si on racontait un conte de fées, voilà. C'est quelque chose qu'on croit vraiment, et comme le Père Noël.
Alors à ce moment-là, Jean-Baptiste Guégan, vous aviez pas encore mué, donc vous aviez pas cette voix que vous avez aujourd'hui.
Non, heureusement. Ça aurait fait peur à tout le monde quand même. Si j'étais né avec cette voix-là, oui.
Bon, alors à partir de quel instant vous vous êtes rendu compte que vous aviez la voix de Johnny?
Ça a commencé vers après l'adolescence, je dirais, vers 17 ans. 18 ans.
Mais il y a eu un déclic, c'est quelqu'un qui voulait faire marquer?
Oui, c'est mon entourage en général. Et puis même les gens que je connaissais pas. Des fois, ça m'arrivait que j'aille chanter dans des endroits que je ne connaissais pas. Et puis des fois, ça, voilà, les gens me disent, mais c'est impressionnant, comment tu arrives à chanter Johnny Hallyday comme ça? Bah, je dis, moi, j'en sais rien, moi. Je le fais tellement naturellement que. Voilà, c'est.
Mais jamais vous vous êtes dit, je veux faire comme Johnny, je veux chanter comme lui, je veux l'imiter?
Non, jamais. Non, j'ai jamais eu cette prétention-là, non. Non, par contre, ça a toujours été. J'ai toujours été fan de Johnny, d'accord, mais toujours dans le respect jamais, non. Je me suis dit, je veux ressembler à tout prix à Johnny Hallyday, je veux. Mais on peut pas, de toute façon, personne ne peut faire ça.
Ah bah, il y a quand même des gens qui savent imiter Johnny, hein.
Oui, mais enfin, on appelle ça des oui, enfin, il y a des sosies.
Non, mais je parle pas des sosies, mais je parle des vrais imitateurs, quoi.
Mais il y a des imitateurs. Voilà. Un imitateur, il sait tout faire, pratiquement.
Oui, mais vous, c'est pas du tout votre créneau.
Mais moi, je peux pas faire plusieurs voix, c'est celle-là, la mienne.
Sauf que quand même que vous avez choisi de vous appeler à un certain moment Johnny Junior. Ça veut dire quand même que très tôt, vous avez choisi de mettre vos pas dans les siens.
C'est pas ça, c'est qu'il fallait, moi et l'ancien monsieur avec qui j'étais, avec qui je travaillais en Bretagne pendant 17 ans. Il fallait bien choisir un nom quand même, un nom de scène. Nous, on savait pas comment, quel nom choisir. Voilà. Donc après, on a choisi Johnny Junior. Il y a qu'après que je me suis dit comment est-ce que je vais m'appeler Johnny Senior. Non, après on rentre dans le ridicule vraiment. Non,
oui.
On est arrivé professionnel aujourd'hui, donc il y a plus le droit à ça. Et puis je me suis dit pourquoi pas garder mon nom et mon prénom. Enfin, je veux dire, j'ai pas de honte à ça.
Alors la ressemblance, elle est effectivement plus que troublante quand on écoute les chansons, quand on écoute l'album, et c'est vraiment comme ça tout au long des différents titres. Vous nous le garantissez, pas de voice coder, pas de traficotage de voix, parce qu'on peut faire beaucoup de choses aujourd'hui avec les machines.
Oui,
hein.
Oui, enfin bon, non, pas avec moi, non.
Aucun, bon.
La preuve, il n'y en a pas ici, non ?
Non, bah non, il n'y en a bon, pas bah ici, voilà, il n'y en a non, pas dans ce studio, ça, voilà. Et ce qui est assez troublant, c'est que juste quand on s'est dit bonjour tout à l'heure dans le couloir, déjà oui. Là dans votre bonjour, il y avait déjà ça, quoi. C'est-à-dire que vous n'avez pas une voix différente quand les micros sont ouverts, quand vous êtes en promo,
non,
en représentation.
Tout,
donc sous votre douche, vous chantez comme Johnny Hallyday.
Ben oui, ça m'arrive aussi, sous la douche.
Voilà. Alors, donc on le répète, hein, même tessiture,
oui.
Même articulation, même vibrato, ou pas très très différent quand même.
Ouais, vous savez, moi j'ai eu cette chance aussi.
Là, quand vous dites, je vous coupe, mais quand vous dites, vous savez, là, on a oui. L'impression que c'est Johnny qui est en train de me parler là.
Bah bon. Bah, je sais pas, la dernière fois que j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit que j'avais la voix de Vincent Lindon. Donc, ça
peut... Ah oui, mais j'ai toujours trouvé que la voix de Vincent Lindon ressemblait à celle de Johnny Hallyday.
Ah oui, aussi. Bon, ouais, alors, ouais. Ça va, alors, ça me rassure.
Voilà.
Et comment, non, mais bon,
Donc le vibrato, ça se travaille, ça, quand
chance.
Même.
Mais le vibrato, non, mais c'est tout est absolument naturel. Je sais pas, il faudrait que je passe sur le billard pour qu'on m'examine. Mais non, mais j'ai déjà rencontré, un médecin qui aussi s'occupait de Johnny Hallyday et qui m'a examiné les cordes vocales qui a trouvé que j'avais exactement la même tessiture vocale que Johnny, c'est tout.
Bon, mais vous l'entretenez cette tessiture, je sais pas, la clope
Mais pas du tout, oui, bah, voilà, je fume, oui, je suis fumeur, voilà. Oui.
Oui. C'est important parce que cette voix-là que vous avez aujourd'hui, vous pouvez peut-être la perdre si vous fumez trop peut-être ou pas assez. Je sais pas.
Et j'en sais rien, je pense pas à ça du tout. Non, moi je fume des cigarettes, voilà, je suis pas non plus Je suis pas à 3 paquets par jour, hein, mais bon.
Oui, mais bon, quand même, Jean-Baptiste Guégan, là, quand on entend dans la chanson le mot amour, par exemple, c'est un mot extrêmement fréquent dans les chansons de Johnny Hallyday,
oui.
Eh bien, le mot amour, vous le dites exactement comme lui, qui est quand même une façon très particulière de dire. Dites-le d'ailleurs.
Amour.
Bah voilà.
Bah
là,
oui.
C'est Jean-Baptiste Guégan, c'est Johnny Hallyday, c'est Jean-Baptiste Guégan, Johnny Hallyday, c'est quoi?
Mais tout est fait par amour, en fait.
C'est une phrase à la Johnny.
Mais oui, mais enfin, j'en sais rien. Après, moi, je parle avec mon cœur, je parle pas à la Johnny. Je m'en fous, je veux dire, c'est pas Johnny qui parle, là. C'est Jean-Baptiste Guégan, tout simplement.
Bon, mais est-ce qu'il a fallu quand même un peu fignoler, affiner, soigner la ressemblance? Là, par exemple, je vous vois, vous avez quelques bijoux, quelques bagouses. Bon, c'est le rocker ou c'est Made in Johnny?
Mais c'est le rocker qui parle, c'est dans mon esprit, c'est ma façon d'être, j'ai toujours été comme ça depuis tout gamin et ça s'est conclu vraiment avec les années qui ont passé avec mes blessures et mes souffrances que j'ai pu avoir au quotidien.
Comme tout le monde, ou comme
exactement.
Johnny.
Exactement, mais vous savez Bernard Lavilliers aussi, il porte des bijoux comme ça et ça n'empêche pas qu'il fait pas de rock and roll. Donc ça n'a rien à voir.
Donc si Johnny n'avait pas existé, vous auriez chanté exactement de la même façon, votre personnage aurait été exactement le même.
Mais le personnage, il aurait été le même. Après, peut-être que j'aurais fait un style différent, j'en sais rien, je peux pas vous dire, moi. En tout cas, Johnny Hallyday a été pour moi un exemple dans ma vie. Mais rien de plus.
Je t'aimerai jusqu'au jour où finira ma vie. À la fin du parcours, à l'aube de ma nuit, je m'en irai le cœur heureux, puisque j'aurai ton ciel dans le fond de mes yeux. Je t'aimerai jusqu'au jour où finira ma vie, puisque c'est écrit. Je t'aimerai jusqu'au jour de la fin de ma vie. Lorsque viendra mon tour pour le dernier rideau, j'emporterai l'amour et le goût de ta peau. Ces instants d'éternité qu'aucun dieu de l'enfer ne pourra me voler. L'amour ne peut mourir, car il est infini, puisque c'est écrit. Je t'aimerai jusqu'au jour où finira ma vie. Je reviendrai parfois me glisser dans.
Puisque c'est écrit, c'est ce titre qui donne ce nom à ce premier album de Jean-Baptiste Guégan sur lequel on découvre votre gueule, hein, car vous avez non seulement une voix mais aussi une gueule, hein, vous êtes très photogénique, hein, comme on dit, vous n'êtes pas du tout le sosie physique de Johnny, mais il y a une vraie présence aussi physique que l'on peut découvrir sur scène et sur l'album. Et puisqu'on évoquait ce qui était écrit, eh bien celui qui a écrit cette chanson, paroles et musique d'ailleurs, c'est Michel Mallory. Grand parolier, hein, de Johnny Hallyday, lui a écrit pas moins de 147 chansons, parmi lesquelles Toute la musique que j'aime, Le bon temps du rock'n'roll, Un jour viendra ou encore J'ai un problème, hein, le duo avec Sylvie Vartan. Oui. Comment est-ce que vous avez croisé la route de Michel Mallory?
Ben, Michel Mallory, j'ai croisé sa route, déjà à son bon vouloir, déjà, parce que c'était pas facile. Ça a été vraiment quelque chose, vous savez, 50 ans d'amitié avec Johnny Hallyday, c'est pas vraiment facile de convaincre quelqu'un, surtout un mec comme moi qui n'est pas connu et qui arrive d'un coup comme ça pour lui demander simplement de m'écrire des chansons et de faire un album. Mais en fait, tout ça, ça s'est passé.
C'est vous qui l'avez contacté, comment ça s'est
passé? Non, pas du tout. Non. En fait, c'est un ami proche à la femme de Michel qui est venu me voir en spectacle et qui a trouvé ça fabuleux, voilà, et qui a parlé de ça à Michel et il a essayé de le convaincre quand même de façon à ce qu'il puisse me rencontrer. Et de là, de par la suite, mon producteur Christophe Porquet est parti en Corse chez Michel et on discutait tous les deux, voilà, du projet que j'avais pour rendre hommage à Johnny Hallyday. Et en même temps, voilà, si c'était possible de m'écrire des chansons. Et donc il a accepté Michel par la force des choses.
Oui, ça a matché tout de suite.
Ça a matché, voilà. Et puis du coup, j'ai rejoint mon producteur Christophe Porquet chez Michel en Corse et on a discuté longuement. De Johnny, de Michel aussi, parce que je connaissais le parcours aussi de Michel. Et il a fallu apprendre à Michel de savoir qui j'étais, comment je fonctionnais, enfin mes défauts, mes qualités, et tout ça. Et puis on a fini par se lier d'amitié petit à petit. Et voilà, et on en est arrivé là. Et quand il m'a expliqué vraiment l'histoire que Johnny Hallyday voulait retourner à Nashville pour enregistrer un album avec Michel, voilà, donc on s'est dit pourquoi pas.
Et c'est ce que vous avez fait. Et direction de Nashville,
avec l'accord de Michel Mallory quand même.
Ouais.
Mais Michel a accepté volontiers. Il m'a dit bah oui, puisque tu veux rendre hommage, et ben allons à fond dans l'hommage. Et puis on a fini par y aller.
Avoir vu.
tournée là-bas, Jean-Baptiste Guégan. Alors ça, c'est plutôt le son de Johnny années 80, c'est ça? C'est votre période de fétiche dans la
oui,
carrière
soit
de
70-80, oui.
80, oui, plutôt country, plutôt folk, rock, évidemment.
Country, folk, rock, oui. C'est tout à fait ma musique, c'est ce que j'aime. Donc voilà, après j'aime bien, je suis né dans cette ambiance un peu, donc voilà.
Vous avez une chanson fétiche de Johnny Hallyday, c'est laquelle pour vous, la chanson de Johnny?
Bon, il y en a plusieurs, mais pour moi, celle qui me correspond et qui correspondait aussi à Johnny, c'est, je pense que Goldman l'a très bien fait, c'est l'envie.
D'accord, vous avez envie de la reprendre, de la mettre sur un disque
reprise?
Non, pas question de faire des reprises.
Non, pas du tout, mais elle est très bien comme ça, l'envie, il faut pas la changer, elle est magnifique.
Aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression de prolonger la carrière de Johnny pour ses fans à lui?
Je pense que pour les fans, oui. Je pense qu'il y a une attente de ça, oui. Oui, effectivement. Moi, souvent, j'entends les gens quand ils sortent le public quand ils sortent de mes spectacles, souvent, merci de faire revivre Johnny, merci de continuer à être là. Et ça, je peux les comprendre parce que je pense que Johnny est parti trop vite pour eux et ils ont la plupart des gens n'ont pas encore eu fait leur deuil.
Alors Michel Mallory, on l'a dit, vous a adoubé, et même plus que ça, Pierre Billon aussi, Sylvie Vartan a salué votre talent, idem pour David et Laura. Du côté de Laetitia et de Jean-Claude Camus, c'est un petit peu plus compliqué. Est-ce que vous n'êtes pas en train de devenir une sorte de pion entre les deux clans?
Oui, ce que je remarque en ce moment, c'est que je mène mon métier correctement et je le fais avec le cœur et sincérité et surtout avec respect. Et ce que je remarque surtout, c'est qu'on essaye de me mettre dans un endroit qui m'intéresse pas. Et je me refuse de rentrer dans cette polémique qui est Laetitia, Monsieur Camus et tout le reste d'ailleurs. C'est leur vie de famille, c'est pas la mienne. Je veux dire, ça me regarde pas.
Mais est-ce qu'on peut, Jean-Baptiste Guégan, faire toute une carrière artistique à l'ombre de Johnny? Vous n'avez pas peur d'être étiqueté Johnny, de ne jamais exister pour Jean-Baptiste Guégan?
Mais bien sûr que non, puisque je suis en train de devenir, aujourd'hui, c'est Jean-Baptiste Guégan qui est le propre acteur de ce CD qui marche très très bien en ce moment. Et franchement, je pense que les gens l'ont très très bien compris. Je suis en train de devenir Jean-Baptiste Guégan, le chanteur à plein temps. Voilà. Et si je suis reconnu comme ça, et ben super, je serai le plus heureux du monde. Maintenant, je ne regrette absolument pas, mais vraiment absolument pas. Ça fait 20 ans que je chante du Johnny Hallyday. J'ai été connu grâce à ça, et c'est d'ailleurs pour ça que que Michel m'a écrit la chanson. Merci. Parce qu'il fallait que je remercie Johnny Hallyday pour ce qu'il m'a appris et pour ma foi fait devenir ce que je suis devenu.
Merci beaucoup Jean-Baptiste Guégan. L'album, puisque c'est écrit, est disponible chez Sony Music. Vous êtes en tournée d'ailleurs ce soir 4 octobre à Grenoble. Foncez-y, vous serez demain samedi à Orléans, dimanche à Lille, le 12 octobre à Tours, le 13 à Caen, le 15 à Mâcon, le 16 à Nancy, le 17 à Dijon, les 29 et 30 à Grandchamp dans le Morbihan. Et ça continue en janvier avec notamment Marseille et la scène musicale de Boulogne-Billancourt près de Paris le 19 janvier. Merci.
Vous m'en direz des nouvelles. Main d'œuvre. Main d'œuvre.
Fanny Blechner.
Aujourd'hui, je suis
le médecin et chirurgien traitant de bien des instruments. Là, c'est une flûte système Böhm 1832 qui est tout en un merveilleux bois, un palissandre de très très belle qualité avec un clétage très fin en argent. Elle est arrivée, comme nous disons, dans son jus, c'est-à-dire que tout était rouillé, bloqué, il y avait des parties qui manquaient avec des fentes sur les différents corps de l'instrument. Je m'appelle Guy Collin, donc je suis luthier vent. Je m'occupe uniquement de la famille des bois, qui ne sont pas tous en bois, puisque c'est pas le matériau qui détermine, c'est un système sonore de vibrations. On appelle ça des anches. Même sur une flûte traversière, vous avez une anche qui est virtuelle. La première étape est vraiment de tout démonter, c'est-à-dire de débloquer les parties qui sont rouillées, bloquées, tout ce qui est vis et axe. J'essaye de trouver le bon embout qui fasse 2 mm de large. Là, je retire l'excédent de colle. J'ai colmaté une fente. J'essaye d'être prudent, ne pas toucher au bois. J'utilise un grattoir triangulaire. Là. Je vais utiliser maintenant un grattoir qui est un disque. ce qui me permettra de gratter l'intérieur de l'instrument. Pour le polissage, j'utilise des pièces à main, mais je vais aussi sur mon banc à polir. Je vais changer la brosse, c'est une brosse spéciale pour le bois. Là, je remonte un mécanisme qui est assez complexe par rapport aux flûtes modernes. Et c'est dans cet ordre-là qu'il faut monter. Il faut monter d'abord les leviers pour après enclencher dessus les clés. Il faut être d'une précision chirurgicale. On va poser les tampons un par un. Et on va faire ce qu'on appelle l'habillage, c'est-à-dire on va mettre tous les petits morceaux de feutre et de liège qui vont limiter la levée de chaque clé. J'utilise un bec benzène minuscule que j'ai fabriqué moi-même, une petite flamme, avec lequel je vais faire fondre la colle. Je replace une petite lentille qui se visse et va maintenir le tampon. Je fais un test d'étanchéité avec une petite feuille de papier à cigarette d'une épaisseur de 3 centièmes de millimètre. Alors cette flûte dont je m'occupe actuellement représente seulement un pan de mon travail, puisque je m'occupe aussi d'instruments haut de gamme tout à fait modernes. En ce qui concerne les autres instruments de la famille, les saxophones, je suis aussi très content de changer quelquefois un peu d'instrument, pourvu qu'il ne soit pas trop gros, puisque je n'ai plus les forces que j'avais il y a 20 ans. Je m'occupe aussi beaucoup moins des hautbois, mais j'ai un goût particulier aussi pour les clarinettes, un instrument aussi, que j'ai aussi pratiqué. Je pense que il n'est pas obligatoire d'être musicien, mais c'est un plus pour pouvoir parler le même langage.
Aujourd'hui, j'étais
le médecin et chirurgien traitant de bien des instruments.
Sur RFI.
Un café gourmand, s'il vous plaît. Un café gourmand.
Le café gourmand, vous m'en direz des nouvelles.
Avec cette semaine, Muriel Mahalouf, Amélie Beaucourt, Alexis Bédu et Alain Pilot. Bonjour à tous les quatre.
Bonjour Jean-François.
De l'humour noir en bande dessinée avec vous, Amélie. Les hommes politiques, les patrons, les vieux, les malades, les pauvres, tout le monde en prend un peu pour son grade.
Oui, ça s'appelle « Faut pas prendre les cons pour des gens ». C'est le nouvel album d'Emmanuel Rezet et Nicolas Rouault aux éditions Flûte Glaciale. Un humour à la Pierre Desproges qui aime bien appuyer là où ça fait mal.
Dans l'actualité musicale, une chanteuse savoyarde à New York, Alain.
Cette actrice également s'est installée là-bas depuis plus de 10 ans et envisage peut-être de partir pour Los Angeles. Chloé Perrier, qui a débuté par le violon et la danse, publie son nouvel album Petite Fleur avec son deuxième groupe French Art Jazz Band, un mélange de standards français et américains des années 20 aux années 40.
Vous, Muriel, vous revenez de Limoges pour nous parler francophonie.
Oui, avec un nouveau directeur, une nouvelle ambiance, mais Limoges est toujours le rendez-vous incontournable de la scène francophone.
Mais tout d'abord avec vous, Alexis, un peu de féerie et de poésie pour commencer avec un dessin animé qui sort ce mercredi 9 octobre en France, la fameuse invasion des ours de Sicile. C'est une fable sur le vivre ensemble, un film réalisé par le dessinateur italien Lorenzo Mattotti. On y suit les aventures du roi des ours, Léonce, qui va partir à la recherche de son fils enlevé par les hommes.
Oui, le jeune Tonio a disparu lors d'une partie de pêche au saumon. Le roi Léonce est inconsolable, il ne bouge plus de sa montagne. En plein hiver, il est enfoui sous la neige, il ne se nourrit plus. Mais son clan meurt de faim. Alors un de ses proches conseillers va lui suggérer une hypothèse concernant la disparition de son fils.
Mais qui te dit que Tonio n'est pas chez les hommes, hein ?
Qu'est-ce que tu as dit ?
Tonio est sûrement là-bas.
Tonio ? Mais qu'est-ce qu'on attend ? Debout ! Allez ! Avec moi, le clan ! En route pour la vallée ! En avant !
Plutôt que d'hiberner, les ours vont se mettre en quête de nourriture et par la même occasion du fils du roi. Ils vont aller à la rencontre des hommes. Une guerre éclate entre les deux camps, puis il faut se résoudre à la cohabitation. Mais le roi Léonce comprend vite que le peuple des ours n'est pas fait pour vivre au pays des hommes.
Alors à l'origine, la fameuse invasion des ours de Sicile, c'est un conte dessiné de Dino Buzzati, publié en 1945. Et c'est la première fois, Alexis, qu'il est adapté au cinéma.
Oui, la famille Buzzati n'a pas été facile à convaincre. Le réalisateur Lorenzo Mattotti a eu l'idée de ce film il y a 13 ans. Après un refus officiel de la famille, il réussit à rencontrer la fille de Dino Buzzati, lui montre son travail et obtient les droits pour une adaptation. Lorenzo Mattotti qui nous a accueillis dans son atelier à Paris, là même où il a imaginé les premiers dessins de ces ours de Sicile.
Bon, là c'est mon table avec tous les crayons, les pastels, un peu les encres. En fait, j'ai essayé de limiter un peu l'espace parce que je travaille mieux dans un espace un peu plus limité.
Donc là, nous avons un dessin de Tonio.
Non, c'est plutôt un ours en général. Un ours ronde qui est en train de marcher avec un bâton. C'est un peu comme à partir des dessins de Dino Buzzati, comme lui faisait.
Vous avez travaillé avec le livre à côté de vous.
Absolument, oui, oui. Avec tous ces petits dessins, ces petites idées graphiques, il m'a beaucoup aidé à créer le monde, l'esthétique du film, en fait.
De nombreux sujets sont abordés dans cette histoire. Il y a la relation très conflictuelle entre la nature et l'homme, une nature omniprésente dans le film, des chaînes de montagnes imposantes à la mer Méditerranée. Il est aussi question de la lutte pour le pouvoir, un pouvoir qui corrompt et qui mène à la mort.
Il parle de la vie, il parle de la mort. Il y a des morts, il y a des relations dramatiques. On essaie de faire du bien et on arrive à faire du mal. Elle est très riche et pas manichéen. Elle fait réfléchir et surtout avec une grande fantaisie et un imaginaire hors du commun.
Autre sujet central du dessin animé, la perte des racines et de l'identité. Tonio, le fils du roi ours, est devenu très proche de l'homme. Il en a adopté le mode de vie. On le voit boire de la liqueur de miel jusqu'à plus soif. Et c'est à ce moment-là que la relation se tend avec son père Léonce.
Tu crois connaître les hommes parce que tu t'habilles comme eux, que tu as grandi parmi eux? Tu as oublié qu'ils t'avaient enlevé pour te faire danser dans un cirque?
Parce que mon père n'a pas été capable de me protéger.
J'ai conquis la Sicile pour te retrouver. Et regarde-toi, tu voudrais être un homme, tu n'es même pas un ours, incapable de pêcher un saumon. Allez, allez, sors de mon bureau, j'ai du travail.
Alors là, c'est le comédien Arthur Dupont qui a donné sa voix au jeune ours Tonio. Leila Becti a également participé au doublage et Lorenzo Mattotti en personne double un ogre.
Oui, même s'il n'est pas comédien, il est plutôt convaincant. À 65 ans, il voulait se faire plaisir et apporter sa patte à toutes les étapes de création du film. On le connaît mieux en auteur, dessinateur de bande dessinée. Ce qui lui plaît d'ailleurs dans cette expérience du cinéma, c'est de sortir de ses schémas habituels et d'avoir la possibilité de donner une très grande profondeur à ces images.
J'ai essayé d'utiliser le cinéma pour sa puissance visionnaire. Dans la bande dessinée, dans l'illustration, on a toujours un peu un problème d'espace. On ne peut pas creuser les feuilles pour créer des profondeurs et tout ça. Et dans le cinéma, oui. Et alors j'ai essayé d'utiliser au maximum les possibilités du cinéma, avec des proportions peut-être exagérées, mais ça vient aussi du monde poétique de Buzzati, des petits personnages dans des énormes espaces graphiques.
La musique est très présente dans le film, elle est signée René Aubry, avec ses sonorités, ses notes de mandoline, vous l'entendez, pas de doute, on est en Méditerranée. Il y a d'ailleurs une tarentelle revisitée à la sauce René Aubry. Pour Lorenzo Mattotti, sa musique apporte de la joie dans un film parfois très sombre.
Je connaissais sa légèreté et l'utilisation des instruments méditerranéens et une sorte de musique dansante légère qui donnait de la luminosité et de la légèreté à tous les films. Il y a une sorte d'énergie positive et c'est aussi grâce à sa musique.
Le film sortira en Italie en novembre prochain, le 9 octobre en France. Allez le voir, c'est très beau et surtout, c'est le seul moyen de voir des ours en Sicile. J'ai vérifié, il n'y en a plus depuis bien longtemps, Jean-François.
Malheureusement, mais merci d'avoir vérifié, Alexis. Ça donne envie en tout cas. J'irai peut-être voir, ne serait-ce que pour savoir s'il y a ou non une petite ours rousse.
Grâce à l'interruption volontaire de grossesse, la femme moderne peut désormais sortir la tête haute et le ventre plat. Mais un nouveau pas vers l'humanisation de la médecine peut encore être franchi. Je veux parler non plus de l'IVG, mais de l'IVV, l'interruption volontaire de vieillesse. Voyez ce
voilà, l'humour noir de Pierre Desproges à présent sur RFI. Alors ça, c'est exactement le genre de gag dont on va parler avec vous, Amélie. Vous nous emmenez justement au mariage de l'humour noir et de l'absurde dans un monde où les profs sont remplacés par des distributeurs automatiques de diplômes et où les sans-abri paient un loyer en fonction du carton dans lequel ils habitent. Alors ça s'appelle « Faut pas prendre les cons pour des gens ». C'est signé Emmanuel Rezé et Nicolas Rouault. C'est aux éditions Fluide Glacial et ça donne une bande dessinée, on l'a compris, grinçante.
Oui, entre le patient qui contredit son chirurgien en pleine opération, les entrailles à l'air, pour lui montrer un tuto sur son smartphone parce qu'il n'a pas confiance, ou encore un patron qui distribue de bon cœur à ses employés des lettres d'adieu pré-remplies pour faciliter leur suicide. Autant dire que Rezé et Rouault, les deux co-scénaristes, aiment appuyer là où ça fait mal. Alors non, les auteurs ne sont pas des monstres. S'ils se moquent des petits-enfants malades et des jeunes recrutés par Daesh pour se faire exploser la cervelle, c'est surtout pour ne pas en pleurer. Emmanuel Rezé.
On est une société qui est avancée technologiquement et malgré ça, vous allez dans Paris, vous voyez des gens qui sont en train de mourir dans la rue et je comprends pas. Et ça me sidère, c'est vraiment un truc que je comprends pas. Les dirigeants politiques, depuis que je suis gamin, j'en ai vu, je sais pas, il y a eu Giscard, Mitterrand, et jusqu'à Macron, et il y a toujours des gens qui meurent dans la rue. Et comment on peut être gouverner un pays et laisser mourir des gens dans la rue, ça me sidère, c'est un truc que j'ai pas de réponse. Est-ce qu'ils voient pas, est-ce qu'ils comprennent pas, est-ce qu'ils s'en foutent, ça me sidère. Donc c'est plutôt ce genre d'interrogation qui est tout ce que je vois autour de moi qui me touche et j'ai envie de le remettre dans la BD après.
Alors ça pose évidemment l'éternelle question, Amélie, peut-on rire de tout?
Alors oui, selon Emmanuel Rezé et Nicolas Rouault, tout est une question en fait de traitement.
Il faut pas à la fin que la personne qui soit déjà victime dans la société soit victime du gag. Il faut que la personne qui soit victime puisse rire à la limite de notre blague, quoi. J'avais proposé à Nicolas qu'on travaille sur les violences conjugales et on a fait plusieurs essais comme ça et on n'avait jamais trouvé exactement le bon angle, la bonne chute.
Ouais, parce que dans ce cas-là, dans l'exemple que tu prends, en fait, c'était un gag où à la fin, on se demandait si finalement on se moquait de celui du mari violent ou si on se moquait de la femme qui était violentée. Et on s'est dit, mais c'est pas assez clair, donc dans le doute, on va pas faire ce gag parce qu'on va pas prendre le risque de faire un gag qui tourne en dérision la femme qui est victime de violence, voilà.
Alors si l'humour est le seul antidote pour survivre dans la société monstrueuse dans laquelle nous vivons, j'ai demandé aux deux scénaristes quelle était la recette d'un gag absurde, histoire qu'on puisse aussi en profiter. Mmh. Il faut donc une bonne dose d'indignation, comme on vient de l'entendre, mais aussi des références humoristiques, parce que le but c'est quand même d'être drôle. Voici celle d'Emmanuel Rezé.
Moi j'ai été bercé avec Monty Python, des proches, etc. Et c'est quelque chose, tout de suite, je me souviens, là, j'avais même pas 10 ans, quand je voyais la minute nécessaire de Monsieur Cyclopède, j'étais fasciné par ça.
De très nombreuses personnes s'imaginent que pour voir apparaître la Sainte Vierge, il suffit de ramasser du bois mort dans les Pyrénées-Orientales en enjambant les ruisseaux. C'est faux.
Donc ça doit être quelque chose qui, est, dès le départ, me touche. Et c'est pour ça que je pars dans ce type d'humour-là.
Alors le problème, c'est que Pierre Desproges n'est plus là hein, aujourd'hui pour nous faire sourire. Alors aujourd'hui, Amélie, de quoi ou de qui peut-on s'inspirer?
Alors pas besoin d'aller chercher bien loin, Jean-François, la bêtise humaine est tout autour de nous.
Sauf dans ce studio, bien sûr.
Évidemment. Et parfois, elle est tellement farfelue que même nos deux spécialistes de l'absurde n'y auraient pas pensé tout seuls.
De toute façon, il y a déjà tellement de choses absurdes aujourd'hui, dans la réalité, qu'on n'a pas besoin de chercher loin pour trouver un truc débile.
Un truc qui aurait pu nous dépasser, c'est que Trump propose d'armer les profs contre l'insécurité à l'école, quoi.
Et c'est ça, voilà, et ça il l'a fait. Enfin, je crois qu'il me semble que c'est dans les tuyaux.
Alors qu'on aurait fait ça, nous on serait peut-être dit, oh, c'est quand même un peu gros, on va pas le faire.
Ouais. Je crois qu'il y a des projets de construction de lycées en courbe, avec des couloirs circulaires, pour éviter peut-être des tueries de masse dans les lycées. Plutôt que de dire, bon, bah, peut-être qu'on va légiférer sur les armes à feu et les interdire. Non, ils préfèrent adapter le système au problème, plutôt que d'adapter la législation sur les armes à feu au système. Ils prennent le problème à l'envers.
On envisage de prendre Trump comme co-scénariste aussi, d'ailleurs.
Alors, au dessin, on retrouve donc Emmanuel Rezé, qui est aussi co-scénariste. Amélie, comment est-ce qu'il a travaillé ses planches?
Alors, il s'est inspiré de photos de la vie de tous les jours pour dessiner ses personnages, mais contrairement à ce qu'il fait d'habitude, il a un petit peu modifié sa technique.
On sent trop mes intentions. Quand j'essaie de m'appliquer, je trouve ça, c'est trop figé comme trait. Donc là, ce que je m'étais mis comme condition, c'est de dessiner très vite, quitte à balancer le dessin s'il est raté, au pinceau. et puis je prends une photo, je fais un crayonné, et puis je redessine après, j'encre. Il y a des aplats noirs que je fais avec un sopalin qui est trempé dans l'encre. Il y a une perte de contrôle, forcément, parce que c'est pas un instrument pour dessiner. Et cette perte de contrôle est beaucoup plus intéressante que ce que je peux faire en essayant de contrôler des fois. Puis en plus, le sopalin, ça donne beaucoup de dynamisme, de vivacité quand je fais des grands traits comme ça. C'est beaucoup plus radical, ça correspond aussi au plus au ton de l'album, peut-être.
Ah, et puis il y a aussi quelque chose qu'on remarque tout de suite, hein, évidemment, Amélie, c'est le titre de cette BD. Faut pas prendre les cons pour des gens, on dirait presque un lapsus.
C'est un lapsus, Jean-François, c'est un ami d'Emmanuel Rezé qui l'a fait, en se mettant à parler à toute vitesse, et puis les co-scénaristes se sont rendus compte que ça collait très très bien à leur projet.
Ce titre, ça veut dire surtout que quand les gens sont cons, ce sont plus des gens, ce sont plus des humains, ce sont des cons. Mais quelque part, cette BD, si on la diffuse, c'est parce qu'on pense qu'il y a de l'espoir et que les cons peuvent devenir des gens.
Cette BD est donc avant tout un message d'espoir adressé à tous les gens ou à tous les cons, on ne sait plus vraiment, sur la planète. En tout cas, ça cartonne tellement que le tome 2 est déjà sur les rails. Avec ou sans Donald Trump, ce sera la surprise.
Voilà, faut pas prendre les cons pour des gens, une bande dessinée d'Emmanuel Rezé et Nicolas Rouault aux éditions Fluide Glacial. Merci Amélie.
Vous m'en direz des nouvelles ? Sur RFI.
Le Festival des Francophonies a un nouveau nom, Zébrure d'automne, et un nouveau directeur, Hassan Kassi Kouyaté. Quelques nouveautés donc, hein, Muriel, pour ce rendez-vous annuel de la scène francophone qui se déroule à Limoges, d'où vous rentrez.
Oui, et le festival se dote aussi d'un nouveau lieu. Il s'installe dans l'ancienne caserne des pompiers, un espace convivial bien qu'immense. Passé la grande grille, on est accueilli par des arbres ceints de tissus colorés qui donnent un brin de luminosité et de gaieté, car le soleil est capricieux et souvent caché derrière les nuages en cette ouverture de festival. Mais peu importe, à la caserne, le resto jouxte le bar, un terrain de pétanque et un chapiteau où ont lieu des débats, remises de prix, lectures. Dehors, quelques tentes permettent aussi de discuter à l'abri de la pluie. Car ce que privilégie d'abord le nouveau directeur, c'est la rencontre. Qu'on puisse, entre deux spectacles, échanger, discuter de la pièce qu'on vient de voir, un verre à la main.
Alors justement, vous avez vu quoi, Muriel ?
De la danse contemporaine, revisitant l'héritage antillais ou vaudou, de la musique venue du Maroc, croisant rap et chant mystique, du théâtre jeune public, débarqué de Bruxelles avec ses marionnettes, de la poésie et bien sûr du théâtre, dont une pièce intitulée « La fin du monde », évidemment, fruit d'ateliers menés par le metteur en scène Hervé Loachmol et la comédienne Anne Durand au sein de l'École internationale du Bénin à Cotonou, créée par Alouk Bindine.
Nous ne sommes pas des Marouillards, nous sommes des Béninois.
Non, non, moi je suis Togolais. Améga. Améga.
Le margouya, c'est le nom donné au Bénin au lézard.
À La Réunion aussi d'ailleurs.
Ah bon, ben vous me l'apprenez Jean-François. La pièce s'ouvre sur le visage ahuri d'une touriste exhibant justement un margouya béninois réunionnais, je ne sais pas, retrouvé dans son sac de voyage. Elle demande à un spectateur de la prendre en photo avec lui et peu à peu, les comédiens béninois disséminés dans le public rejoignent la scène. Et voilà que la discussion dérape sur le rapport entre l'humain et l'animal et les relations nord-sud. Hervé Loachmol explique comment ce propos est né.
À partir du moment où on arrive, qu'on connaît rien à rien du Bénin, ni du Vaudou, ni de quoi que ce soit, et qu'on s'efforce d'être réceptif à ce qui arrive, forcément qu'on découvre que dans l'école, il y a plein de margouillas, il y a plein de lézards, il y a plein de geckos, il y a des margouillas qu'on apprend, ça s'appelle des margouillas et pas des geckos. Et à partir de là, ce premier étonnement a conduit à après, dans le travail d'écriture, à imaginer des liaisons avec la question se pose aujourd'hui dans les relations que les humains entretiennent avec le monde vivant, avec ce qui n'est pas humain, avec ce qui est animal. On commence avec un certain type de théâtre, soi-disant participatif, inclusif, etc. Donc cette relation-là est jouée sur scène, est ironisée complètement et renversée.
Vous êtes française, c'est ça ?
Non, je suis franco-suisse.
Vous avez la double nationalité ?
Oui.
Vous avez deux passeports ?
Bah oui. Pourquoi ?
Magnifique ! Vous pouvez vous déplacer comme vous voulez.
Habiter en même temps à Paris et à Genève, venir au Bénin, aller en Amérique ou en Australie. Vous pouvez me regarder, m'observer, me prendre en photo avec Marbouya. Il n'y a pas d'égalité entre vous et nous.
Nous chantons.
Et sur scène, Muriel, il y a aussi la musique et la poésie qui se mêlent au théâtre.
En fait, dans la deuxième partie de la pièce, on bascule dans une forme très différente où le comédien et directeur de l'école du théâtre du Bénin, Alouk Bindine, surgit d'une tente et commence à raconter la relation entre Aimé Césaire et André Breton et par déclamer leur poésie accompagnée par la musique, accordéon et différentes percussions sur scène. Ce volte-face est assez déroutant, on regrette presque qu'Hervé Loachmol, qui tenait une belle idée au départ autour de ce Marbouya qui dégénère en une véritable réflexion sur les rapports entre l'Europe et l'Afrique, le tout sur le ton de la comédie, ne soit pas allé jusqu'au bout de son propos. Alouk Bindine raconte, lui, comment son école tente de s'ouvrir en tout cas aux créateurs du monde tout en ne négligeant pas le répertoire africain.
On met en avant le répertoire d'auteurs africains, mais on ne s'enferme pas dans l'Afrique. On travaille avec des gens de partout, on travaille tous les textes, des classiques comme des textes contemporains, parce que c'est important que ces comédiens-là vivent ce que l'on vit ailleurs, qu'ils soient informés de ce qui se passe ailleurs, de comment ça se passe, c'est important pour leur formation.
En tout cas, ce sont des comédiens très talentueux, certains toujours en formation, qu'on a pu voir sur scène dans ce spectacle créé il y a un an au FITEB, le Festival International du Théâtre au Bénin.
Muriel Mahalouf dans le Café Gourmand de VMDN quant au Festival des Francophonies. Il se poursuit donc à Limoges jusqu'au 5 octobre. Merci.
J'ai deux amours, mon pays et Paris. Mon cœur est ravi. Manhattan et Padre, Mars à quoi parvenir. Ce qui m'en sort, c'est le signe. Paris, Paris tout entier.
Chloé Perrier sur RFI qui reprend évidemment Alain. J'ai deux amours.
Popularisé par Joséphine Baker, pour qui les deux amours étaient son pays, les États-Unis et Paris. Chloé Perrier, je vous le disais tout à l'heure, est-elle aussi partagée entre la France et l'Amérique ? Était-ce la raison qui l'a poussée à s'approprier ce classique ?
Tout à fait. En fait, déjà, pour moi, c'est une grande dame que je respecte beaucoup et que j'adore autant musicalement que la personne. Si on commence à regarder sa vie, elle a une vie incroyable. Et aussi parce que effectivement mon cœur est partagé entre Paris et New York pour l'instant, un petit peu Los Angeles, mais entre Paris et la France et les États-Unis. Donc c'est d'ailleurs j'ai changé, j'ai mis Manhattan au lieu de Savannah, mais parce que ça correspondait plus à moi personnellement. Et oui, j'adore cette chanson, elle est magnifique. On vient de tourner le clip sur cette chanson à Paris.
Alors bien qu'elle soit née en Savoie, c'est comme Joséphine Baker, Paris qui est devenue sa ville d'adoption avant ce départ outre-Atlantique. Alors.
La capitale française où elle arrive avec ses parents l'année de ses 10 ans, elle y devient comédienne à 13 ans. Après des années à jouer la comédie et prendre des cours de danse et de chant, elle donne son premier concert sur un pari fait avec l'acteur, aujourd'hui disparu, Mousse Diouf, qui à l'époque était propriétaire du restaurant et salle de concert Le Réservoir. Mousse Diouf lui donne 3 mois pour trouver des musiciens et monter sur scène. Chloé est terrifiée, mais elle le fait. Ce premier concert était une compilation de toutes les chansons de films qu'elle aimait.
Et à propos de cinéma, l'une des chansons qu'elle interprète a fait partie d'un long métrage.
Que reste-t-il de nos amours de Charles Trenet, dont il chante une version courte dans La Cavalcade des Heures, chanson écrite en 1942. En 2019, que reste-t-il de cette composition, Chloé Perrier ?
Pour moi, c'est un intemporel. Ce morceau, il touche tout le monde et il touche toujours tout le monde maintenant. Donc, il aurait pu être écrit aujourd'hui que c'était parfaitement juste, surtout avec cette époque où les relations sont un peu Kleenex. Moi, je suis très romantique, alors j'espère toujours, je suis très fleur bleue. Et c'est vrai que ça parle à tout le monde. Enfin, moi, à chaque fois, je pense à quelques ex. À chaque fois que je la chante, j'en choisis un, à chaque fois différent. Bon, il n'y en a pas eu tant que ça, mais. Mais c'est vrai que c'est intemporel, son texte, il est vraiment actuel. C'est incroyable d'ailleurs qu'il ait écrit dans les années 30. On n'a pas du tout l'impression pour moi. C'est juste parfait.
Que reste-t-il des pieds tout, des mois d'avril, des rendez-vous, un souvenir qui me poursuit sans cesse. Bonheur fané, cheveux au vent, baiser volé, femme au fond. Que reste-t-il de tout cela? Dites-le moi.
Que reste-t-il de nos amours dans l'interprétation de Chloé Perrier?
La première interprète sera Lucienne Boyer.
Alors comment Chloé Perrier devient-elle chanteuse de jazz?
Après ce fameux concert au Réservoir, elle chante de plus en plus de jazz et se décide à retourner sur les bancs de l'école pour en savoir plus. Elle opte pour la Bill Evans Academy et commence les cours avec les talentueux Sarah Lazarus pour le chant et Joe McCollum pour la composition. C'est dans cette université qu'elle compose sa première chanson, Si, qui se trouve sur son premier album, Cœur de Française, et sa vie de chanteuse de jazz commence.
La vie en rose en quelque sorte.
Vous ne croyez pas si bien dire Jean-François, puisqu'elle est aussi au générique de ce nouveau disque. À ce propos, Chloé, quelle est la popularité d'Edith Piaf aux États-Unis?
C'est incroyable, tout le monde connaît Edith Piaf et tout le monde connaît La vie en rose, et moi je ne voulais pas toucher Edith Piaf, donc le fait que j'ai fini par chanter La vie en rose, c'est parce que tout le monde me demandait à chaque fois que je chantais, depuis que j'ai déménagé à New York, à chaque fois que je chantais quelque part, c'est pouvez-vous chanter La vie en rose? Et j'étais non, jusqu'au jour où j'ai dit bon, bah, va falloir que je m'y colle. Et pour moi, Piaf, c'est une grande dame, et j'avais un blocage pour y toucher. Et du coup, je me suis dit bon, bah, on va changer la version. Donc, tout début, j'avais commencé à faire une version en bossa que j'aimais bien. Et puis là, pour l'album, comme c'est un album plutôt swing, on a décidé de faire une version un peu rapide et upbeat et joyeuse. Et parce que l'amour, c'est aussi joyeux, on n'est pas obligé de tout faire en balade. Donc voilà, qui surprend un peu les habitués, mais justement, c'était le but de ne pas être comparé à cette grande dame.
Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose.
La vie en rose par Chloé Perrier sur son nouvel album Petite Fleur pour clore ce café gourmand. Merci Alain, merci également à Muriel, Amélie, Alexis. Dans un instant, le journal.
C'est lui pour moi, moi pour lui, tant envie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Dès que je l'aperçois, alors je sens dans moi mon cœur qui bat.
On se retrouve évidemment lundi avec l'écrivain et dramaturge Alexis Michalik qui sort un premier roman baptisé Loin, édité chez Albin Michel, et vous m'en direz des nouvelles.
Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose.